Nous devons constamment venir à ses pieds et entendre sa voix. Et j'aimerais introduire ce message juste par les paroles du Seigneur dans Matthieu 24. Il est dit, verset 12, verset 13, déjà plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le Seigneur nous avertit ici que parce que l'iniquité, le péché, la rébellion dans les temps de la fin va tellement augmenter que l'amour d'un grand nombre, il est dit ici, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et cela concerne tout spécialement les chrétiens. Il y a un proverbe qui dit « Un homme averti en vaut deux ». Il est donc bon de prendre les paroles du Seigneur, ses avertissements. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous devons veiller à la fin, à ce que notre amour pour le Seigneur ne diminue point. Amen. Et que rien ne nous arrête. Il peut faire son travail. Et nous pouvons aussi continuer. Nous pouvons utiliser les circonstances difficiles de la vie pour aller de l'avant. Et non pas pour reculer. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, utiliseront ces difficultés pour retourner en arrière. Il est donc important d'être averti, de ne pas dire, oh, moi, non, non, moi, ah, toi, ah bon, moi, non, ça m'arrivera pas, moi, ah bon. Tu seras le premier à tomber dans le panneau. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas attention. Parce que tu ne veilles pas. Tu dis, moi, ça ne m'arrivera pas. Ça veut dire que tu ne veilles pas. Tu n'es pas dans un état de vigilance, de prudence, mais tu es dans un état de négligence. Tu planes un petit peu. Tu en sais plus que les autres. Tu crois savoir plus que les autres. Et c'est ainsi qu'on tombe dans le panneau. Un jour, j'ai entendu un serviteur de Dieu dire, concernant certains péchés graves de certains serviteurs de Dieu, il a fini son petit commentaire en disant, mais moi, ça ne m'arrivera jamais. Et il est tombé exactement dans ce piège-là. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. La chair est faite. L'esprit est bien disposé. L'homme par lui-même ne peut rien du tout. Si nous ne veillons pas, il peut nous arriver les pires choses. Et quand nous lisons tous les passages du Seigneur concernant les temps de la fin, constamment, il est dit de veiller, de surveiller, de prier, de faire attention, constamment. Veillez, faites attention, constamment. Parce qu'il vous connaît et me connaît. On est facilement oublieux. On oublie tant vite, bien vite, beaucoup de choses. Et je lisais une pensée, il faut adorer le Seigneur le dimanche, mais il faut marcher avec lui le lundi. Il y en a qui adorent le Seigneur le dimanche, mais le lundi, ils ne marchent plus avec lui. Et j'allais dire, presque en sortant de l'église, ils ne sont déjà plus les mêmes. Même en sortant de l'église, vous ne les reconnaissez pas. On a l'impression que le mauvais caractère revient à la lumière. Si c'est le mari à sa femme, mais suis-toi, tu repasses l'horloge, je t'attends depuis longtemps. Ça y est, toute la réunion est gâchée. On vient, on était dans la présence de Dieu, et en un instant, on gâche tout. Pourquoi? Parce qu'on ne veille pas. On ne veille pas. C'est les mêmes paroles négatives qui reviennent à l'égard de son mari ou de je ne sais qui. On tombe bien souvent dans le piège. On n'arrive pas à garder la bénédiction. La bénédiction tombe dans des paniers percés. Ça tombe, mais ça ne reste pas. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Je vais vous donner ici, brièvement, 5 causes de refroidissement de l'amour des chrétiens. 5 causes. Et cela nous concerne tous. Et nous sommes tous appelés à faire bien attention. La première cause de refroidissement, c'est l'amour du monde. Premièrement, l'amour du monde. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un serviteur de Dieu qui s'est éloigné, qui a fait un mauvais chemin, mais il y en a un autre dans la Bible. Ça commence par D, ça finit par S. C'est Démas. Paul dit une fois dans l'Épître à Timothée, Démas, il est appelé quelque part un compagnon d'œuvre, mais à un moment donné, il n'a pas veillé. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Vous vous rendez compte? Démas a abandonné Paul et toute l'équipe par amour pour le siècle présent. Bien sûr, on ne sait pas exactement ce que c'était, mais il y avait cet amour pour le monde. Et on peut penser, mais comment? Regardez, encore une fois, vous voyez, quand on ne veille pas, Démas, avec une équipe dont Paul était le responsable, vous vous rendez compte? Une équipe, l'équipe exemplaire, où la puissance de Dieu se manifestait d'une manière merveilleuse. Moi, j'aurais bien voulu ramasser et porter les valises de Paul. J'aurais dit, Paul, prends-moi avec toi, s'il te plaît. Même si j'ai rien à faire, je prendrai tes valises et je les porterai. J'irai derrière. Et j'avancerai. Démas a vu tout cela. Il a entendu les discours extraordinaires de Paul. Il a vu les miracles que Paul a pu faire par la grâce du Seigneur. Il a vu comment on bâtissait une église. Quels étaient les combats, les souffrances de l'apôtre. Il n'y avait pas meilleure équipe, n'est-ce pas vrai? Et cependant, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Voyez-vous, on peut côtoyer les plus belles personnes remplies de l'Esprit. On peut être avec ceux qui aiment vraiment le Seigneur et soi-même dégringoler complètement. Parce que vous avez votre responsabilité. Si vous ne veillez pas, même dans une église remplie de l'Esprit, où la gloire de Dieu se manifeste, vous pouvez avoir l'amour du monde. Démas m'a abandonné. Combien cela a dû attrister Paul, n'est-ce pas vrai? Il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Qu'est-ce que le monde? Ben, le monde, c'est là où le Seigneur ne peut pas venir avec toi. Si tu vas à un endroit où le Seigneur ne peut pas venir avec toi, ça c'est le monde. Quand tu vas aller à un endroit et tu dis au Seigneur, Seigneur, tu restes ici, je vais faire un petit tour par là. Tu as des vacances, tu relaxes un peu. Tu te mets là. Attends, je vais te préparer une place, Seigneur. Tu te mets là, tu m'attends. Ça va, tu es confortable. Et puis moi, je vais un peu là-bas. Si le Seigneur ne peut pas venir avec toi, ça, c'est le monde. Si le Seigneur ne peut pas regarder ce que tu regardes, ça, c'est le monde. Si le Seigneur ne peut pas entendre ce que tu entends, ça, c'est le monde. C'est clair et c'est net, n'est-ce pas vrai? Si nous disons que nous aimons le Seigneur, il faut toujours en donner la preuve. Démas m'a abandonné. L'amour du monde, c'est ce qui vous refroidira, mes amis. Parce qu'on ne peut pas marcher avec le Seigneur et avec le monde. Un pied avec le Seigneur et un pied dans le monde, c'est impossible. Vous ne serez jamais heureux, ni avec le Seigneur, ni dans le monde. Vous serez la personne la plus malheureuse. Les personnes, les chrétiens les plus malheureux, ce sont ceux qui ont ce cœur partagé. Et quand on parle d'aimer le Seigneur, c'est pas seulement aimer 99.99. C'est l'aimer 100%. J'ai jamais rencontré une épouse heureuse quand le mari lui dit, écoute chérie, toi je t'aime. 99.99. Tu sais combien je t'aime. Est-ce que l'épouse va applaudir? J'ai jamais vu ça encore. Qu'est-ce que c'est que ce discours? 99, tu veux m'impressionner là? Mais tu vois bien, c'est pas 10, c'est pas 20, c'est pas 30. C'est 99.99. Non. C'est ce petit point là qui me gêne. C'est celui-là qui me gêne et qui fera que nous ne serons pas heureux. L'amour s'exprime toujours en relation de totalité. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et alors, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez-vous, quand on aime le Seigneur, alors on peut aimer vraiment. Quand on aime le Seigneur de tout son cœur, on peut aimer son prochain ou son épouse, vraiment de tout son être. Mais le Seigneur, lui, il a toute la première place. Il ne doit pas y avoir de partage. Et vous le savez, mes amis. Vous le savez. Vous savez, avec la marche avec Dieu, c'est une marche dans la lumière et dans la droiture. Si vous ne veillez pas à ce premier point, vous pouvez pendant des années vivre votre vie de chrétienne en boitant. En boitant. Une fois avec le Seigneur, une fois avec le monde. Une fois avec le Seigneur, une fois avec le monde. Il n'y a rien de tel pour vous refroidir. Et même les réunions les plus bouillantes ne feront rien. Et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Puissions-nous jamais être de ce nombre. Amen. Ô Seigneur, je veux que mon cœur reste bouillant pour toi jusqu'au bout. Ce n'est pas le tout de bien commencer. Il faut encore bien finir. Démas a bien commencé, mais il a mal fini. Et il y a beaucoup de chrétiens qui commencent très bien, mais qui finissent très mal. L'amour du monde, à un moment donné, on veut voir ailleurs. Quand on n'est pas entièrement au Seigneur, il y a automatiquement un vide qui est là. Et ce vide, il faut le combler. Et on le comble de mille et une choses. Mais cela, c'est comme du sable que l'on met sur le feu. Et le feu commence à diminuer, diminuer. Et c'est ainsi que l'on perd sa flamme. Alors veillons à cela, mes amis. L'amour du monde. Si le Seigneur ne peut pas venir avec toi, si le Seigneur ne peut pas entendre ce que tu entends, on parle de la présence de Dieu, n'est-ce pas vrai? Mais la présence de Dieu, c'est pas seulement ici, à l'église. Quand on a vraiment été dans la présence de Dieu, cette présence, on l'a avec nous. Notre corps n'est-il pas le temple du Saint-Esprit? C'est pas seulement dans l'église qu'il y a la présence de Dieu. Il faut que nos maisons soient comme des temples de Dieu. C'est dans la maison que ça doit continuer. Si ça ne continue pas la maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des pertes quelque part entre l'église et la maison. Il y a des fuites quelque part. Et il y a beaucoup de fuites dans la vie de certains chrétiens. Beaucoup de fuites. Allons un peu plus loin. Deuxième cause de refroidissement de l'amour des chrétiens, ce sont les épreuves et la persécution. Les épreuves et la persécution sont la cause aussi de refroidissement de l'amour de beaucoup de chrétiens. Je note ici le passage du Seigneur, Matthieu 24, 10, quand il dit « Vous serez haïs de tous, de toutes les nations comme à cause de mon nom, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Vous vous rendez compte? Regardez dans l'épreuve ce qui se passe. Ils succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Vous vous rendez compte? Ce que l'épreuve, la persécution produit dans la vie de certains. Celui en qui vous avez pleinement confiance, vous êtes étonné. Comment, quand la persécution est là, se tourne contre vous, vous trahissent et vous abandonnent, ils succombent. Pourquoi? Parce que ce sont, comme je l'ai dit hier matin, des chrétiens alléluia, mais ce ne sont pas des chrétiens amen. J'ai bien expliqué aux frères hier, les chrétiens alléluia, moi j'en suis un, vous en êtes un, comme on a loué le Seigneur ce matin, on est tous des chrétiens alléluia. Il faut le rester. Mais les chrétiens alléluia, c'est comme si on avait, c'était une jambe, et le chrétien amen, c'est l'autre jambe. Sur une jambe, si vous n'êtes qu'un chrétien alléluia, est-ce que vous allez pouvoir aller loin? Certains chrétiens, vous ne savez jamais quand ils vont tomber. Ils sont toujours, c'est des équilibristes. Oh, là là. Comment ça va? J'en reviens de loin. Ouh là là. C'est toujours d'un extrême à l'autre. Ils frôlent les choses qu'ils ne devraient pas frôler. Ils vont là où ils ne devraient jamais aller. Un chrétien, alléluia, si vous n'avez qu'une jambe, vous n'irez pas loin. Mais si vous êtes les deux, alléluia, amen. Alors là, on avance. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. C'est merveilleux. Quand il y a les deux. Et vous savez ce que ça veut dire, amen? Ça veut dire. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Ainsi soit-il. C'est-à-dire que ta volonté soit faite. Et pas seulement quand ça me plaît. Parce que certains chrétiens disent, oui, Seigneur, ta volonté, ça, quand ça m'arrange. Mais quand ça me dérange, il n'en est pas question. Vous savez, des chrétiens entêtés, ça existe aussi. Je ne sais pas si ça existe au Canada, mais en Europe, il y en a. Il y en a. Quand ils ont décidé quelque chose, vous savez, il ne peut plus les faire avancer, c'est fini. C'est ainsi soit-il que ta volonté soit faite, Seigneur. et l'adversité ici, les épreuves et la persécution, le chrétien doit utiliser, et c'est là une vérité que tout le monde doit bien comprendre, le but de Dieu de nos épreuves, quelles qu'elles soient, ce n'est pas de nous faire tomber par terre, ce n'est pas de nous détruire, c'est toujours de nous purifier et de nous fortifier. Amen. Les Hébreux dans la fournaise, à un moment donné, le feu est venu et la fournaise a brûlé quoi ? Même pas leurs cheveux, rien du tout, mais leurs liens. Le feu a détruit leurs liens. Le feu les a rendus libres. Dieu envoie l'épreuve dans un but pour nous purifier. Et ensuite pour nous fortifier. Elle est nécessaire. C'est tout ce qui est éprouvé qui a de la valeur. Si vous montez dans une voiture qui n'a pas été éprouvée, vous n'irez pas loin. Je ne monterai pas avec vous en tout cas. Si vous allez dans un avion qui n'a pas été éprouvé, pour voir si ça tient bien là-haut, et si on peut aller vite, je n'oserai pas monter avec vous. Tout ce qui a de la valeur doit être éprouvé. Une foi qui n'est pas éprouvée n'a pas de valeur. Et voilà le but de l'épreuve, mes amis, c'est de vous fortifier. Comment est-ce que vous allez réagir dans telle ou telle épreuve ? Dieu vous teste. C'est un test. Non pas pour vous faire tomber dans un piège, mais pour fortifier votre foi. Pour que vous puissiez dire au Seigneur, Seigneur, quelle que soit la difficulté, je veux utiliser l'épreuve, l'adversité, pour aller de l'avant et non pour reculer. Avez-vous pris cette décision? Nous savons du reste que toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Utilisez vos épreuves. Sur le moment, vous ne comprenez pas, mais plus tard, vous le comprendrez. Et vous savez, les temps d'épreuve sont toujours des temps de bénédiction, mais nous ne le comprenons pas tout de suite. Nous ne le comprenons pas tout de suite. C'est plus tard, quand nous avons été éprouvés, qu'il y a un fruit paisible de justice qui se manifeste, comme pour dire, Seigneur, c'est juste, il fallait que je passe par là. Il le fallait, c'est juste, Seigneur, c'est par ce chemin que je devais passer. Et je t'en remercie. Merci, Seigneur. C'était dur, mais c'était le chemin le plus sûr. Merci, Seigneur. Avez-vous compris cela? Utilisez-vous vos épreuves, l'adversité, pour vous propulser en avant, ou alors pour vous stopper, et même certains pour reculer? Combien de chrétiens devraient être ici maintenant, mais à cause de l'adversité et des épreuves, on ne les voit plus? Complètement repliés sur eux-mêmes. Oh, je ne comprends pas. Oh, je ne comprends pas. Mais bien sûr, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Jésus a dit un jour à Pierre, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Et un jour, lorsque nous serons dans la présence de Dieu, et qu'il t'expliquera certaines choses, tu vas comprendre que c'est justement dans ces moments les plus difficiles que le Seigneur se tenait près de toi pour te prendre dans ses bras et pour te conduire plus loin. Là où tu pensais qu'il t'avait abandonné, c'est justement là où il était le plus près de toi. Là où tu pensais qu'il ne te voyait pas, c'est que tu étais constamment sous son regard. Mais tu ne comprends pas maintenant. Un jour, tu le comprendras. Crois-le par la foi. Mon juste vivra par la foi. Mais nous, nous vivons beaucoup par la vue ou par nos sentiments. Ah non, je sens pas, je me sens pas bien. Je sens que, tu sens quoi? Comme je l'ai dit aussi, le sentiment, vous voyez, beaucoup de chrétiens vivent de sentiments. Si vous vivez de sentiments, le sentiment souvent, Vous pensez que Dieu vous a abandonné alors qu'il ne vous a jamais abandonné. Vous pensez qu'il ne vous voit pas alors qu'il est là toujours. Vous pensez qu'il ne vous aide pas, il vous aide. Mais pas comme vous le pensez. Ses voix ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Faisons-lui confiance. Il est le maître et nous sommes les serviteurs. Mais malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, c'est le contraire. Ils ont pris le rôle de maître. Et quand ils parlent au Seigneur, c'est le petit serviteur là-haut. Seigneur, tu dois faire ça. Seigneur, tu dois faire ça. Oh non, même pas. Enfin, ils disent Seigneur, mais dans leur tête, c'est... Bon, tu dois faire ce que je veux. Et puis, il y en a même qui... Ultimatum. Il y en a même qui lancent des ultimatums à Dieu. Tel jour à telle heure. Avant telle date, on a marché comme ça. Ah bon ? Oh. Qui est-ce qui commande ? Qui est le Seigneur ? Il ne faut pas se tromper. Le Seigneur, c'est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous ne pouvons pas manipuler le Seigneur comme cela. S'il y a quelqu'un qui doit changer, c'est nous. Ce n'est pas lui qui doit se soumettre à notre volonté. C'est nous qui devons nous soumettre à sa volonté. Si nous comprenons cela, alors, quelle que soit l'adversité, nous la prendrons comme venant de sa main pour aller de l'avant. Amen. Rien ne pourra nous arrêter. Même vos échecs, vous les utiliserez comme un moyen pour aller de l'avant. Si vous pouvez trouver un chrétien qui utilise ses échecs pour apprendre une leçon et pour aller plus loin, faire mieux la prochaine fois, ce chrétien-là ira jusqu'au bout et gardera son cœur en feu et en flamme pour le Seigneur. Utilise tes épreuves. Ah, mais vous ne savez pas. Ah oui, on ne sait pas. Oh, mais vous savez-vous que je vous explique tout. Comment, tu n'as pas besoin de tout expliquer. Le Seigneur, il sait toutes choses. Et nous avons tous les mêmes épreuves d'une manière ou d'une autre. Quelques-uns succomberont, se trahiront et se haïront. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur. Vous croyez qu'il se trompe, le Seigneur ? Non. Alors utilisons, mes amis, l'adversité. Soyons prêts même à souffrir pour le Seigneur. Amen. Je vais vous dire une chose. Quand la gloire de Dieu se manifeste, quand la présence de Dieu est là, il y en a un autre qui réagit. Il y en a un autre qui réagit. Si on veut une présence de Dieu tranquille, quand Dieu est là, il y en a un qui est dérangé, c'est l'ennemi. Et qu'allez-vous faire avec ça? C'est là qu'il ne faut pas perdre les pédales. C'est un ennemi vaincu, c'est vrai. Mais vous ne devez pas perdre les pédales. Ça veut dire que nous devons suivre le Seigneur, coûte que coûte. Il peut y avoir des persécutions, il peut y avoir des reniements, il peut y avoir toutes sortes de choses. Il nous faut quand même persévérer jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Alléluia. Qui peut arrêter un tel chrétien qui utilise toutes ses adversités, tous les combats pour aller avec le Seigneur? Et comme je dis souvent, celui qui avance à genoux ne recule jamais. Il vaut mieux avancer lentement mais sûrement dans le vœu de Dieu. Amen. Lentement mais sûrement. Et comme ça, on va jusqu'au bout. Troisième cause de refroidissement, les hérésies et les fausses doctrines. Les hérésies et les fausses doctrines. 1 Timothée 1,13, j'ai noté ce passage. Il y a là quelque chose qu'il nous faut toujours bien considéré. 1 Timothée 1,13. Ah oui, donc c'est 2 Timothée. 2 Timothée 16,18 plutôt. 2 Timothée 16,18. 2 Timothée 2, 16,18. Voilà, ah oui, c'est là, c'est ça. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philet, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà venue, arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Il y a là une autre réalité. Les hérésies, les fausses doctrines, c'est comme de la gangrène qui ronge. Qui ronge la foi de quelqu'un. Et ce qui est curieux, quand des gens, même des chrétiens, sont dans des hérésies, vous avez remarqué, ils ont un certain zèle. On dirait qu'ils sont enflammés. Mais ils sont enflammés, ils ont un feu, mais c'est plutôt, ils ont de la fièvre. Ce n'est pas un bon feu, c'est de la fièvre. Certains chrétiens, vous avez l'impression qu'ils ont un feu. Mais si vous allez un peu gratter un petit peu, ce n'est pas un feu, c'est de la fièvre. Un jour, un chrétien dit, le chrétien doit avoir un cœur bouillant et une tête froide. Celui qui a les hérésies, tout ça, qui marche là-dedans, il a peut-être le cœur bouillant, mais il a la tête bouillante aussi. Et ça, c'est très dangereux. Et les hérésies produisent cela. La fièvre qui refroidit l'amour d'un chrétien. Vous vous rendez compte? Une fièvre qui refroidit l'amour. Et c'est cela. C'est une contradiction. Et c'est pourquoi nous devons veiller à cela. Il y a une certaine fièvre qui est un signe de maladie plutôt qu'autre chose. Qui nous rappelle qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain. Et en général, quand un chrétien se lance dans des hérésies ou dans des fausses doctrines, tôt ou tard, cette personne finit lamentablement. Cette personne peut avoir bien commencé, mais elle peut aussi très mal terminer. Et vous savez, quand il y a de la gangrène, à un moment donné, si vous ne coupez pas, c'est tout le corps qui est détruit, n'est-ce pas vrai? Alors, là aussi, il faut veiller. Comment faire? Il y a même des chrétiens, ils ne savent pas comment s'en sortir avec ça. Mais vous savez, il y en a tant, on entend tant de choses. Vous croyez que vous êtes supérieur aux autres? On n'est pas supérieur aux autres. Mais il y a un moyen biblique pour savoir ce qui vient de Dieu ou ce qui ne vient pas de Dieu. C'est tout simple. Un jour, un frère en Suisse m'a dit, quand il y avait tous ces problèmes d'hérésie, vous savez, qui avaient commencé avec Toronto et tout ça, alors je vous assure, il y avait de la fièvre là, ces journées-là. La fièvre était là. La fièvre, il y en avait, la fièvre. Et quand il y a de la fièvre, il y a des délires aussi, n'est-ce pas vrai? On voit n'importe quoi, on dit n'importe quoi. C'était un délire. Il m'a dit, Sam, dis-moi, s'il te plaît, comment il faut faire? On ne sait plus où on en est. Et je lui ai dit, écoute-moi, tout ce que Jésus et ses apôtres n'ont pas enseigné et pratiqué, tu dois le rejeter. Amen. Est-ce clair? Qui est notre modèle? Jésus est la pierre angulaire et les apôtres sont ceux qui ont fondé sur cette pierre angulaire. Vous êtes d'accord avec moi? Le modèle, il est là. Il n'y a pas de nouveau modèle. Il n'y a pas de nouvelle révélation. Il n'y a pas de nouvelle doctrine. Cela, ça n'existe pas. Toute la révélation est complète dans la parole de Dieu. Et si tu t'éloignes un instant de cette parole, alors, c'est que le virus t'a pris. La fièvre a commencé. Et alors, tu ne sais pas où ça va finir. Ça peut finir par la gangrène et la mort spirituelle. Voilà le modèle. Tout ce que Jésus et les apôtres n'ont pas enseigné et pratiqué, alors tu le mets de côté. Parce que si tu vois autre chose, ça veut dire que c'est un autre évangile et que ce n'est pas l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et des apôtres. Ah oui, mais c'est différent. Ah ouais, donc c'est un autre évangile. Ah oui, mais ça, c'est un peu... Ah oui, donc c'est un autre évangile. Il y a là l'évangile du Seigneur et des apôtres. Si tu fais quelque chose d'autre, si tu dis quelque chose d'autre, qui ressemble un peu, mais qui est différent un peu, ça veut dire que c'est un autre évangile. Ah non, non, c'est un autre évangile. Ah non, c'est pas ça, vous comprenez. Comment? C'est un autre évangile. Vous savez, ces gens-là, vous, quand ils ont fait chaud dans la tête, ils pensent que c'est vous qui n'avez rien compris. Oh là là, attention, en plus ils ont un air de supériorité. T'as rien compris. Vous vous rendez compte? Alors qu'elle est dans un autre évangile. Jésus et les apôtres n'ont jamais fait ce qu'il est en train de dire et faire. Et tout cela refroidira votre amour pour le Seigneur. Nous devons veiller plus que jamais. Amen. Plus que jamais. Quatrième cause, la tolérance de certains péchés dans notre vie. Là, il n'y a rien de tel aussi pour vous refroidir, vous frigorifier. Et vous le savez vous-même. On ne joue pas avec le péché. Trop de chrétiens commencent à jouer avec le péché. Je le dis, je le répète, le péché comme un serpent. Si vous ne tuez pas le serpent, c'est le serpent qui vous tuera. Il n'y a pas d'autre explication. Vous pouvez dormir avec un serpent à la maison, vous? Il y en a qui les mettent en cage. On ne peut pas dormir avec un serpent à la maison. Il faut le tuer. Le péché, c'est la même chose. Vous ne devez pas permettre au péché de dominer sur vous. Et là aussi, il faut veiller. Veiller plus que jamais. Absolument. Être intolérant à l'égard du péché dans notre vie. Et c'est ainsi que nous garderons cette flamme. Nous disons souvent que Dieu est amour, mais nous oublions bien souvent que Dieu est un Dieu de sainteté. Le Dieu que nous adorons est un Dieu saint, mes amis, ne l'oubliez jamais. Aucun moment, quand nous voyons les endroits où il y a la présence de Dieu, la gloire de Dieu, Ésaïe 6 ou l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il est dit? Tous ceux qui sont autour du trône, saint, saint, saint est l'Éternel. Le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Mais à aucun moment vous voyez amour, amour, amour. Ou puissance, puissance, puissance. Qu'est-ce que nous mettons nous en évidence? Bien souvent c'est son amour. Nous chantons puissance, puissance, puissance. C'est pas comme ça dans la Bible. Nous chantons amour, 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 Dieu même. Ceux qui sont près du Seigneur chantent saint, saint, saint. Si nous chantons puissance, puissance, c'est que nous ne sommes pas assez près du trône encore. Si nous chantons amour, amour, on n'est pas encore assez près du trône. Auprès du trône, c'est la sainteté de Dieu qui est mise en évidence. Amen. C'est pour ça que lorsque nous sommes vraiment dans la présence d'un Dieu trois fois saint, nous ne sommes plus les mêmes, n'est-ce pas vrai? Quelque chose doit changer en nous. Nous sommes en communion avec un Dieu saint. Qui nous sanctifie, qui nous purifie. Il y a quelque chose qui se passe. Et son amour, c'est un amour saint. Et sa puissance est une puissance sainte. C'est pas une puissance qui nous fait faire n'importe quoi. Qui nous fait crier comme un coq, ou aboyer comme un petit chien, avec ses histoires de Toronto. Et on voulait nous faire croire que ça venait du Saint-Esprit. Et des multitudes ont cru cela. On a déshonoré Dieu. On ne connaît plus Dieu. On s'est fabriqué un Dieu de son imagination. Plus nous vivons près de Dieu, plus nous serons conscients de sa sainteté. Amen. Et alors là, dans la présence du Dieu saint, nous ne désirons qu'une chose, nous purifier, nous laver. Tout ce qui le déshonore doit être condamné, doit être rejeté. Et alors, nous pouvons vraiment jouir de sa sainte présence. Alléluia. Et je termine. Cinquième cause. C'est une adoration qui n'est pas sincère. L'adoration que nous adressons à Dieu doit être sincère. Vous savez, à un moment donné, dans Matthieu 15, il est dit, Matthieu 15, verset 8, Jésus a fait le reproche un peu aux pharisiens. Et il leur a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le verbe honorer ici, dans le texte grec, veut dire adorer. Ce peuple m'adore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez? Donc l'adoration n'était pas sincère. On peut adorer ici et avoir son cœur ailleurs, à la maison ou je ne sais où. L'adoration doit être sincère, absolument sincère. Et celui qui aime, Jean 14, 15, qu'est-ce qu'il est dit? Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. C'est l'obéissant. Quand on aime vraiment le Seigneur, mais on doit l'aimer pour lui-même, attention. On ne doit pas rechercher la présence de Dieu pour la présence elle-même, mes amis. Ça, c'est encore nous qui sommes au centre. Je veux être béni par sa présence. C'est pas ça, aimer Dieu. C'est pas ça. Ça, c'est vous utiliser Dieu pour qu'il vous bénisse. Ça, ce n'est pas la véritable adoration. Le véritable amour, c'est la véritable adoration, c'est l'aimer, aimer Dieu pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il nous fait, nous donne, nous apporte, pour ce qu'il est, lui. C'est ça, la véritable adoration. Le moi est complètement mis de côté. Si nous relisons tous ces passages où la gloire de Dieu se manifeste, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, à un moment donné, la gloire de Dieu est tellement là que même les sacrificateurs devaient s'en aller. Amen. Ils devaient partir. Voyez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme ne doit pas côté de toi. Quand Dieu vient sur le trône, ben alors attention, il y en a un qui doit partir. Parce que le Seigneur ne viendra pas si toi tu veux rester sur ton trône. Le Seigneur ne viendra pas. Il viendra sur le trône de ton cœur, à condition que tu lui laisses toute la place. Tu ne vas pas dire au Seigneur, bon, viens, il y a une petite place pour toi. Viens te mettre sur le trône de mon cœur. Tu vois, je te fais une place. Juste ici, on sera tous les deux. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est ou toute la place, ou pas de place du tout. Il doit être le Seigneur de tout, sinon il n'est le Seigneur de rien du tout. Oh, que nous puissions comprendre ces vérités. C'est dans cette mesure-là que nous serons vraiment heureux. Mes amis, la joie, la paix, le bonheur, c'est des choses qui sont bonnes en elles-mêmes, mais c'est une conséquence, c'est un fruit de notre relation avec le Seigneur. Tout cela, j'allais dire, vous n'avez même pas besoin de le demander. Vivez avec le Seigneur, vivez pour lui, et vous verrez que lui, en retour, il va déversera des choses merveilleuses dans votre vie. Mais ce n'est pas là le but. On ne vient pas à l'église pour être béni. Alors, qu'est-ce que vous me dire? Mais laissez-moi finir ma phrase. J'ai pas fini ma phrase. On ne vient pas à l'église pour être béni, mais on vient à l'église pour le bénir. Et si tu viens pour le bénir, toi, tu seras béni au-delà de toute bénédiction. C'est quand on ne veut plus rien pour soi que Dieu nous donne tout. Vous comprenez bien? C'est quand on ne veut plus rien pour soi que Dieu nous donne tout. Parce que c'est lui notre objectif. Offrir à Dieu une adoration sincère, non pas égoïste, non pas je t'aime parce que tu m'aimes, si tu me bénis, Seigneur, je te bénirai. Non, non, non. Seigneur, même si tu ne me bénis pas, je te bénirai. Même si tu ne montres rien du tout, je t'aimerai. Tu es mon sauveur, tu es mon Dieu, tu es mon rédempteur. Et ne l'oubliez pas une chose, dans l'adoration, il y a une vérité que je constate qui manque beaucoup dans beaucoup d'églises. C'est la réalité de la croix. On chante très peu des chants sur la croix. Et quand vous lisez l'Apocalypse, les premières paroles qui viennent à l'agneau qui a été immolé, l'agneau qui est sur le trône est digne de recevoir la louange, l'honneur, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Pourquoi nous devons chanter la croix? Parce que c'est là que nous avons été délivrés de nos péchés. Plus nous chanterons cette réalité-là, plus nous haïrons notre péché. Parce que nous comprendrons que c'est notre péché qui a fait souffrir le Seigneur. Mais moins nous en parlons, moins nous abandonnons notre péché. Nous nous amusons avec cela. Mais si nous nous rappelons constamment la croix, les gloires de la croix, les souffrances de la croix, pour moi, pour toi, rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché, ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, moi je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Puissions-nous jamais oublier la croix des amis. Chantons les gloires de la croix, car c'est là que nous avons été rachetés, et c'est là que nous aimerons plus le Seigneur. C'est là que nous chercherons plus à lui ressembler. C'est là que nous chercherons plus à faire sa volonté et à lui dire, me voici, envoie-moi. Prends ma vie, Seigneur. Comme dans Ésaïe 6, après l'adoration, Dieu a dit, qui enverrai-je ? Oh, me voici, envoie-moi. Dans la véritable adoration, on ne s'arrête pas ici à adorer. On finit par dire, me voici. Que veux-tu que je fasse ? Maintenant, pour te servir et te glorifier, en ayant un tel maître que nous contemplons dans l'adoration, nous n'avons qu'un désir, c'est de le faire connaître aux autres. Amen. Si nous n'avons pas envie de le faire connaître aux autres, c'est que nous ne le connaissons pas comme il est, comme nous devons le connaître. Si tu savais comme il t'aime, sans tarder, tu viendrais à lui. Tu viendrais à l'instant même. Tu viendrais dès aujourd'hui. Puissions-nous être saisis de cette croix, lisons souvent l'Apocalypse, à l'agneau qui a été immolé. Soit la gloire, la puissance, la richesse, la force, la gloire au siècle des siècles. Et les 24 vieillards se prosternèrent et répondaient Amen. Et ils adorèrent. Puissions-nous être dans cet esprit-là, et Dieu sera glorifié en nous et par nous et pour sa gloire. Amen. Courbons-nous dans la prière. Merci Seigneur. Seigneur, nous nous courbons devant toi, devant ce trône de gloire et de majesté. Nous ne pouvons que nous incliner et te dire, prends nos vies et transforme-les à ton image. Nous ne voulons pas, Seigneur, que nos cœurs se refroidissent par tout ce que tu nous as montré. Nous voulons garder un cœur bouillant, non pas fiévreux, mais un cœur bouillant. Un cœur qui t'aime sincèrement, non pas par intérêt, mais qui t'aime pour toi, pour ce que tu es, ce que tu as fait. Nous voici, Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous par ton Esprit Saint et par ta parole, et que nos vies te glorifient toujours plus. Toujours mieux, car tu reviens bientôt, nous voulons être prêts pour ce jour, et en attendant annoncer ta merveilleuse nouvelle, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. À toi seul, la louange, l'honneur et la gloire, dès maintenant et à jamais. Amen. Restons Amen. Dans le recueillement, Amen. Quelques instants encore.
Amen. Devant une telle présence du Seigneur, je propose que nous nous levions devant Sa Majesté l'Agneau, qui a été immolé. C'est l'événement le plus important, qui a le plus d'importance dans notre vie, le sacrifice de Jésus à la croix. Nous disons souvent, le Seigneur est au milieu de nous. Eh bien, s'il est vraiment au milieu de nous, il dresse ce matin sa croix. Ayons maintenant un instant de recueillement. Devant la croix, devant celui qui s'est immolé à la croix. Pour toi.
Oui, merci.
Pour moi.
Pour moi, pour mes péchés.
Disons-lui sincèrement, merci, Seigneur Jésus-Christ,
merci, Seigneur,
d'avoir donné ta propre vie pour moi, pécheur, d'être descendu du ciel de gloire pour t'offrir pour un pécheur, une pécheresse aussi vile que moi. J'étais perdu dans les ténèbres de ce monde. J'étais perdu loin de toi. Et tu es venu pour que je puisse aujourd'hui bénéficier de ton pardon. Seigneur, encore merci d'avoir sacrifié ta sainte vie pour chacun de nous. Seigneur, que pouvons-nous faire pour toi maintenant, sinon nous offrir en retour et te dire, Seigneur, prends ma vie.
Amen.
Et prends-la tout entière.
Amen.
Et Seigneur, je t'établis sur le trône de mon cœur, Seigneur.
Amen.
Que non seulement tu sois sur le trône de cette église, mais que tu sois aussi sur le trône de mon cœur, Seigneur. Et de notre cœur à tous. Et je t'établis comme Seigneur de mes pensées. Et je t'établis comme Seigneur de mes actes. Et je t'établis comme Seigneur de mes paroles, de mes mains, de mes pieds, de mes yeux, de mes oreilles, de mon corps. Je t'établis comme Seigneur de mon être tout entier. Et je suis à ton service, Seigneur, afin que je puisse dire avec l'apôtre, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Amen.
Que je ne fasse plus ma volonté,
oui,
mais ta volonté.
Amen.
Non plus mes pensées, mais tes pensées,
amen,
Seigneur.
Amen.
Que je ne sois plus glorifié, mais que tu sois glorifié,
amen,
dans ce monde.
Amen.
Et que tu puisses faire ce que tu veux de ma vie.
Oui.
Seigneur, je te donne le champ libre pour agir avec moi comme tu le veux, en sachant que tu ne te trompes jamais et que tu ne fais jamais d'erreur. Seigneur, nous voici pour te servir. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône et qui règne au siècle des siècles, que tous les anges et les archanges adorent dans le ciel et la multitude des rachetés. À toi louange, à toi puissance, et nous nous joignons à la multitude des rachetés dans le ciel, qui crient jour et nuit, sainteté, saint et l'éternel. Seigneur, nous voulons bannir de notre vie toute impureté, toute influence de ce monde. Oh, que Seigneur, toujours, ta douce voix puisse nous reprendre quand nous nous égarons loin de toi.
Amen.
Oh, Seigneur.
Merci.
Nous voulons te dire que nous t'aimons,
oh, oui,
de tout notre cœur.
Alléluia.
Amen.
Amen.
Vous pouvez vous asseoir, j'ai encore juste quelques paroles prophétiques de la part du Seigneur pour les responsables de cette église. Concernant votre avenir, ce qui viendra, le Seigneur dit aux responsables de cette église, à tous ceux qui ont une responsabilité dans l'église, d'une façon ou d'une autre, qui servent le Seigneur dans l'église, quelles que soient les pressions que vous subirez, quels que soient les obstacles qui se dresseront sur votre route, continuez d'avancer dans la direction que je vous ai proposée, en plaçant votre confiance en moi et non en vous-même. Même pas en ceux parmi vous qui sembleraient les plus qualifiés. Que chacun remplisse donc bien et simplement la fonction que je lui ai assignée, réalisant que c'est un honneur de travailler avec moi et pour moi, que c'est un poste de confiance qu'il occupe, et que d'avoir charge d'âme est une grande responsabilité devant moi. Rappelez-vous que je confie les soins de ma maison, que je ne confie les soins de ma maison qu'à ceux qui me sont attachés de tout leur cœur, à ceux qui marchent avec moi et qui restent bien cachés derrière moi. Poursuivez donc la voie que j'ai commencé à tracer devant vous. Et souvenez-vous des nombreuses interventions miraculeuses que je vous ai accordées. Souvenez-vous constamment qu'avec moi, vous pouvez franchir des murailles, que mes voies sont parfaites, mes promesses éprouvées, que je suis un bouclier pour tous ceux qui se confient en moi. Vos expériences du passé avec moi vous aideront à croire et à réaliser que la victoire est possible et que je ne vous délaisserai jamais, dit le Seigneur. Mais vous, restez bien, bien cachés derrière moi, vous dit le Seigneur. Merci, Seigneur.
Amen.
Merci. Puissions-nous prendre toutes ces paroles qui ont été dites au travers des messages, et celles-ci aussi, au sérieux, sachant que c'est une grande responsabilité de travailler avec et pour toi. Louange, gloire et puissance à toi. Ce matin, tu nous as visités et nous voulons te remercier pour ta sainte présence. Amen.
Amen.